Mémoire vive.
Présentée par Christelle Le Polotec.
Et préparée par Rachel Rimer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Denis Péchanski, historien et président du conseil scientifique du mémorial de Rivesaltes, qui sera inauguré le 16 octobre prochain en présence du Premier ministre Manuel Valls. Le projet de ce mémorial est né dans les années 90 à l'initiative de Claude Delmas, Claude Vaucher et Serge Klarsfeld et il a fallu presque 20 ans pour qu'il voie enfin le jour grâce notamment à l'impulsion de Christian Bourquin qui a porté ce projet avec le Conseil Général des Pyrénées-Orientales et la région Languedoc-Roussillon et qui s'est éteint l'année dernière avant que le site ne soit inauguré. Alors c'est un projet ambitieux puisqu'il se propose de rappeler le souvenir des différentes communautés qui se sont succédées sur cet ancien camp militaire du sud de la France, espagnols, juifs, tziganes de 1941 à 1942, puis harkis en 1962. C'est un projet ambitieux également de par ses enjeux muséographiques et pédagogiques. C'est l'architecte Rudy Ricciotti, à qui l'on doit déjà le Mucem à Marseille, qui a conçu au milieu des ruines du camp, ce mémorial de béton de 210 mètres de long et de 3000 mètres carrés d'espace intérieur qui abritera salles pédagogiques, auditoriums et expositions permanentes et temporaires. Quelle est pour vous, Denis Péchanski, l'ambition de ce mémorial et qu'est-ce qui le distingue des autres lieux de mémoire en France ?
Vous l'avez très bien dit, ce qui distingue ce lieu des autres lieux de mémoire, c'est l'unité de lieu dans une histoire longue. En fait, Rivesaltes traverse un grand deuxième XXe siècle avec les deux grands traumatismes de la période, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. Unité de lieu, une constante aussi les déplacements forcés de population, puisque nous avons les Juifs, les Tziganes, les Espagnols. Ensuite, on aura y compris des prisonniers FLN. C'est ce qu'on a découvert en faisant notre travail. Plusieurs centaines. Et dans la foulée, plus de 20 000 harkis. Encore une fois, des déplacés forcés, bien entendu. Et notre problème, c'est de à la fois de prendre en compte cette unité de lieu, cette unité thématique, et puis d'être clair, A n'est pas égal à B, n'est pas égal à C, n'est pas égal à D. Donc la difficulté dans cette affaire, c'est de rendre compte de la diversité de ces composantes, des destins, des individus, et en même temps, d'une unité de récit.
Et vous expliquez également que l'histoire des camps en France a commencé avant Vichy. Pour Rivesaltes, il faut partir de la retirada des républicains espagnols en 1939.
Oui, on comprend rien à Rivesaltes et en général au camp d'internement en France si on ne prend pas en compte cela. En fait, l'histoire des camps en France commence le 12 novembre 1938. C'est un décret-loi qui permet l'internement de juifs, d'étrangers considérés comme indésirables. Et l'internement administratif, c'est ce qui permet d'enfermer des gens, non pas pour des crimes qu'ils auraient commis, mais pour le danger potentiel qu'ils représentent. C'est une mesure administrative, donc juives des suspects, qu'on met là pour les mettre à l'écart, parce qu'ils sont potentiellement dangereux. Et là, vous avez la défaite de la République espagnole. La défaite de la République espagnole, la victoire de Franco, ça veut dire 500 000 personnes, près de 500 000 personnes qui vont franchir la frontière. Bon. Et des centaines de milliers qui vont se retrouver à même la plage. Roussillon, c'est Argelès, c'est Saint-Cyprien, c'est le Barcarès. On va mettre bientôt des tentes. Et on va dire aux Espagnols, bon, maintenant on va construire des baraques dans lesquelles vous allez être enfermés. Donc ils vont construire leurs propres baraques. C'est terrible. Et en plus, ils viennent en France avec l'image, évidemment, de la France des droits de l'homme, la France de la Révolution française. On est en 1939. C'est le 150e anniversaire. Et ils vont se retrouver enfermés. Parce qu'on est dans une France qui se restrécit, dans une France qui est à l'approche du conflit, est une France en crise, ce qu'on appelle avec mon ami Laborie une crise d'identité nationale, une perte des repères, une atomisation de la société, un rejet de l'autre et une combinatoire entre la xénophobie, l'antisémitisme, l'anticommunisme et le pacifisme. C'est ça qui fait, qui fouraille en quelque sorte la société française à la fin des années 30, même s'il y avait des courants de solidarité avec les républicains espagnols. Rivesaltes ouvre vraiment le 14 janvier 1941, donc déjà après la défaite, hein, c'est les premiers
comme
convois qui arrivent.
Comme camp d'internement.
Comme camp d'internement, oui. Voilà. Et là, on voit arriver des Espagnols. C'est pourquoi l'histoire de cette retirada, du passage de centaines de milliers, à la fois de militaires et de civils, est très importante. Parce qu'on va avoir, vous savez, vous avez entre janvier 41 et novembre 42, on a 17 500 personnes qui sont passées dans le camp de Rivesaltes, dans le camp d'internement. Sur ces 17 500, vous avez 53% d'Espagnols, 40% de Juifs, et puis vous avez 7% des Tziganes. Voilà, ils sont 1300, qui ont été expulsés d'Alsace-Moselle, qui était territoire allemand, ont renvoyé sur Vichy, parce qu'ils ne voulaient pas des Tziganes. Et Vichy ne trouve pas d'autre solution que de les mettre dans un camp. Voilà. C'est ça qui fait Rivesaltes. Et c'est un camp familial. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants. Et c'est un camp avec beaucoup d'œuvres d'assistance qui vont essayer de défendre ces familles, ces enfants.
On va revenir, puisque en fait, sur 2400 juifs qui ont été internés à Rivesaltes ont été déportés dans les camps d'extermination en Allemagne. 2500 autres ont échappé à la déportation. Donc, grâce aux œuvres de secours dont vous parliez, il y a l'OSE, il y a les Quakers, il y a la CIMAD.
Et le secours suisse aux enfants, qui joue un grand rôle.
Également. Et puis, il y a Paul Corazi, envoyé du préfet des Pyrénées-Orientales, qui a tenté notamment d'éviter la déportation aux enfants.
Ça, c'est un personnage exceptionnel. Il faut bien quand même avoir, vous donnez très bien les chiffres, il y a 2300 juifs qui vont être déportés de Rivesaltes. Et c'est évidemment un chiffre énorme, et d'autant plus important qu'on est encore dans la zone dite libre, c'est-à-dire en l'absence de toute présence de soldats allemands. Et Rivesaltes va avoir une importance cruciale, puisqu'à partir de début septembre 1942, il va devenir centre interrégional de déportation des Juifs. C'est-à-dire que tous les Juifs de zone sud qui vont être capturés vont être envoyés sur Rivesaltes, et pendant 2 mois, c'est de Rivesaltes que vont partir les convois pour Drancy, alors qu'avant, ils partaient de plusieurs.
Oui, c'est pourquoi ça appellera le camp de Drancy,
exactement,
de la zone sud.
C'est Drancy de zone sud, de zone libre. Bon. Et là, vous avez un personnage, mais alors, voilà, j'ai découvert là, depuis quelques années. Et puis, il s'avère qu'en prenant contact avec la famille, on reconstitue un peu l'itinéraire du bonhomme. Quoi. Il vient de l'extrême droite. Il a même perdu un œil dans une bagarre au moment du Front populaire. C'est pour vous dire que c'était quand même pas un grand révolutionnaire. Enfin, si, mais pas vraiment à gauche. Et il va se retrouver comme du copain du préfet, négociant. Donc, responsable du Secours national, un organisme de Vichy. Donc le préfet lui dit, écoute, je ne sais pas s'il se tutoyait, si tu veux bien, tu vas me représenter au camp de Rivesaltes, parce qu'on organise la déportation des Juifs, donc je voudrais que tu suives cette affaire. Et là, il découvre l'horreur, bien entendu. Il découvre la situation et il va négocier, travailler main dans la main avec les œuvres d'assistance, y compris avec des réunions clandestines, pour essayer de sauver un maximum de Juifs. Parce que la difficulté, c'est de mêler...
De manière légale, c'est-à-dire...
Vous posez exactement le problème. C'est un mélange de légal et d'illégal. Si on reste dans le légal, on cautionne. Si on fait de l'illégal, on n'a plus le droit d'intervenir dans le camp. Donc on fait un mix des deux. Donc effectivement, il y a des commissions de criblage, de tri. Et vous imaginez la situation d'un Corazi ou d'œuvres d'assistance qui disent « Ok, ceux-là peuvent partir ». C'est terrible. Bon. Sauf que c'est le camp d'où on a sauvé le plus de Juifs. Il y a en fait à peu près 5000 Juifs qui étaient entre août 1942, le premier convoi est du 11 août, et novembre 1942, il y en a 5000 qui vont passer. Sur les 5000, il y en a 2300 qui sont déportés. Il y a très peu d'enfants, très peu d'enfants qui sont déportés. Et ça, c'est lié aussi au fait que Corazi, avec les œuvres, disait « Bon, allez, on s'organise pour sauver les gosses en particulier. » Ça veut dire quoi, sauver les gosses? Vous savez, moi, j'ai interrogé des témoins. Vous vous rendez compte ils me montrent les papiers, ils me disent « Regardez, c'est ma mère qui a signé un papier disant « Je t'abandonne. Je t'abandonne. » Ça veut dire que les mères, les parents disaient, ils devaient signer un papier officiel « J'abandonne mon enfant. » Et s'il abandonnait l'enfant, l'enfant pouvait être pris en charge par les œuvres d'assistance qui immédiatement les exfiltraient, les sortaient du camp, avec la complicité de Corazzi, bien entendu. Mais là, c'était officiel, hein, on pouvait. Il avait une acception très large, hein, des exemptions possibles pour les Juifs. Et puis, ils étaient envoyés dans des homes protégés Massif Central, ou bien envoyés à la frontière suisse, et ils passaient en Suisse, je pense, par l'intermédiaire aussi du Chaumont-sur-Lignon, grâce à Friedel Reiter, qui était... connexion avec Bonnie, qui viendra son mari, et qui avait la responsabilité de 3 hommes d'enfants au Chaumont-sur-Lignon. Donc, il faut bien comprendre que, vous savez, j'ai regardé, là, à l'occasion de l'inauguration, un reportage où on voyait Fraîche sur le site, début 2007, alors une voix tonitruante, extraordinaire, et disant, ça n'est pas, ne faites pas un mémorial de la désespérance, c'est le mémorial de l'homme debout. Extraordinaire. Imaginez quand c'est Fraîche qui le dit dans le vent des baraques de Rivesaltes, effectivement, c'est le mémorial de l'homme debout, y compris pour les victimes qui sont
c'est
parties.
C'est pour ça que l'histoire du sauvetage est présente dans
bien sûr, c'est crucial. C'est crucial ici, mais aussi pour les victimes. Sont partis aussi debout.
Les différentes communautés coexistaient les unes avec les autres ou bien elles étaient séparées? Puisque j'imagine que les conditions de vie n'étaient pas les mêmes quand une certaine partie de la population était amenée à être déportée.
Alors bien sûr qu'à partir du moment où il y a l'organisation des déportations, on va séparer ces communautés. Mais au début, pendant tous les mois d'existence, depuis janvier jusqu'à août 1942, il y avait beaucoup de mélanges, et en particulier entre Espagnols et Juifs, et en particulier pour les gosses qui restaient là, parce que il y avait des cours qui étaient donnés par les œuvres d'assistance, en particulier l'OSE, le Secours Suisse aux Enfants, les Quakers et autres, et on leur donnait des cours. Alors, cours obligatoire dans un camp, si vous voulez, oui. Ça dépendait des moments. Mais voilà, ils puissent se retrouver ensemble. Il y a des photos, mais adorables, quoi. Et puis, il y a, à côté du camp, vous avez la maternité d'Eln. Elsbeth Heidenbens, qui est morte il y a très peu de temps, presque centenaire, et qui était aussi en Espagne avant, et qui va accueillir là les femmes qui étaient enceintes à Rivesaltes ou à Gurs ou ailleurs. Et elle venait accoucher à Elne, et là on voit, parce que j'ai retrouvé ces jeunes dans un... maintenant, enfin les jeunes, ils sont plus vraiment très jeunes, quoi. Ces enfants nés à la maternité, des Juifs, des Espagnols, ça a donné un très beau film de Goldbraun sur le sujet, et c'était ensemble, quoi. Et puis c'était des Espagnols qui s'occupaient des petits Espagnols et des petits Juifs, c'est... Ah, la maternité de Nel, c'est magnifique. Et on voit bien le lien. Et puis évidemment, là aussi, une fois que les mères avaient accouché, que les bébés étaient nés, on se débrouillait pour les... On ne les renvoyait pas sur Rivesaltes. Hein.
Quelles étaient les conditions de vie dans ce camp par rapport à d'autres, comme Drancy, par exemple?
Écoutez, c'est curieux, parce qu'en fait, ce camp a été créé en janvier 1941, parce que ça devait être un camp modèle. Parce que comme d'habitude, l'administration française, elle fait quelque chose, elle décide quelque chose, on va créer des camps, parce que il faut mettre dans les camps les gens qui sont responsables de la défaite, les Juifs en particulier, voilà, les Espagnols, les étrangers, on les met dans les camps. Bon, on fait des camps, sauf qu'on n'a pas les moyens. Comme il n'y a pas les moyens, il y a une crise terrible à l'automne 40, avec une surmortalité. Donc il faut trouver une solution. Et là, tout d'un coup, il y a un directeur de cabinet de je ne sais où qui dit « Ah ben là, on a trouvé un site qui est superbe à Rivesaltes, vous verrez, c'est un très grand camp, 600 hectares, donc on peut mettre du monde, et puis dans de bonnes conditions. » Sauf que quand on est sur place, ils arrivent en janvier 1941, on va avoir des conditions de vie sur place qui vont être très dures, parce que y a le vent.
La météo, oui.
Le vent, le froid, l'hiver, et la chaleur terrible. L'été, la sécheresse, ce qui fait que l'absence de mise à niveau de l'administration française pour pouvoir gérer un tel camp. C'est pour ça que les œuvres d'assistance sont rentrées dans le jeu. Parce qu'en fait, il y avait une sorte de deal. On leur disait, le ministère de l'Intérieur leur a dit, bon, ok, vous rentrez à l'intérieur des camps, vous pouvez agir dans le camp, mais à deux conditions. La première condition, C'est tout ce qui sera donné en plus aux internés, c'est vous qui payez. La deuxième condition, pas de subversion. Il fallait respecter les règles. Et d'une certaine façon, il fallait cautionner ce qui se passait. Alors, elles n'ont jamais voulu cautionner. Et même pendant les déportations, elles ont essayé de tout faire pour évidemment empêcher la déportation.
Il va y avoir ensuite, donc en 1962, une nouvelle période. Les harkis ont été hébergés, c'est le terme est officiel, au camp de Rivesaltes. Est-ce que le site rend hommage à la mémoire harkie ou est-ce qu'il y a de manière plus générale une lecture de la guerre d'Algérie ?
Faudrait déjà raconter l'histoire des harkis, qui est totalement inconnue. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec cette mémoire, avec cette histoire ? Vous rendez compte ? Les harkis. Donc c'est des gens qui sont des supplétifs de l'armée française pendant la guerre d'Algérie, donc considérés comme des collabos, quelle que soit leur motivation, hein, parce que souvent c'était lié à un massacre, ou bien des logiques familiales, des logiques de clan, ou bien ils étaient dans une zone sous contrôle français, enfin bon, etc. Peu importe les motivations. Mais évidemment, quand arrive l'indépendance, ils sont considérés comme des collabos. En France, ils arrivent, pour ceux qui ont pu passer... parce qu'il y en a pas mal qui sont restés là-bas, il y a eu des massacres sur place. Pour ceux qui sont passés, il y en aura près de 21 000 qui vont passer au camp de Rivesaltes, hein, qui sera le grand camp, le grand centre pour les harkis, pas du tout un camp d'internement, un centre d'accueil, sauf que quand ils sont en France, le gouvernement n'en voulait pas. C'était des Algériens, il ne fallait pas qu'ils rentrent en France. Bon, ils rentrent en France, on va essayer de se débrouiller. Ceux qui étaient plutôt de gauche disaient, nous on était pour l'indépendance, on va pas soutenir les harkis. Mais ceux qui étaient de droite, ils disent quoi ? Ben, c'est des Arabes. Donc ils se retrouvaient complètement isolés, ce qui fait que, finalement l'État va mettre à disposition l'ONF, l'Office National des Forêts, qui va créer des hameaux de forestage à partir de 64, va faire travailler, va donner du travail, mais rien à voir avec les processus d'intégration traditionnels. Là, c'est une population, d'ailleurs, qui est en marge et qui va très très mal le supporter. Ce qui fait que ça va même créer des grands mouvements de protestation dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui, pour qu'on reconnaisse ce qu'ils ont été. Donc cette histoire-là doit être racontée. Parce que c'est une histoire terrible, et c'est une mémoire qui n'est pas reconnue. Vous savez, je travaille sur la mémoire, sur les conditions de la mise en récit mémoriel. Qu'est-ce qui fait que des événements qui ont été partagés par beaucoup sont ou non des éléments structurants de la mémoire collective. L'histoire des harkis, ça n'est pas structurant de la mémoire collective. Voilà. Et je vais vous raconter une anecdote. J'ai été invité dans un congrès de harkis il y a une dizaine d'années par un ami, Amoumou, qui est Mohand Amoumou, qui est d'ailleurs maire de Volvic maintenant, et qui était au conseil scientifique, spécialiste du sujet, qui me dit, bon, si tu peux venir présenter le projet. Bon, alors, je suis venu présenter, pas très simple, hein. Bon, vous imaginez un congrès de harkis. Donc j'y suis allé, je présente le projet, je leur ai dit, écoutez, vous avez une chance unique. On peut vous faire un mémorial, et vous aurez peut-être un jour un mémorial uniquement sur l'histoire des harkis, mais qui va venir ? Vous, les harkis, et quelques profs un peu sympas du coin. Bon. Là, on va avoir l'histoire des Espagnols, l'histoire des Juifs, l'histoire des Tziganes, l'histoire des harkis, et l'histoire plus globale de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire que des gens qui viennent pour voir une autre histoire, un autre récit, vont découvrir votre histoire. Et vous-même, vous allez découvrir la leur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière ce mémorial, il y a un message humaniste fondamental. Et un projet, d'abord un projet humaniste, en même temps qu'un projet d'histoire et un projet de mémoire. C'est la possibilité, dans la reconnaissance des différences, bien entendu, d'une convergence mémorielle en un même lieu. Et cette dimension humaniste est pour moi essentielle, y compris dans mon travail d'historien.
Qu'est-ce qu'il est devenu ce camp des années 60, c'est-à-dire de la, quand les derniers harkis sont partis du camp jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce qu'il y avait déjà une conscience autour de ce lieu ou bien son passé était complètement occulté ? dans la région.
Pas occulté, c'était compliqué dans la région ou ailleurs. C'est d'abord, il y avait tellement de fonctions successives. C'est un corps militaire qui a eu des fonctions successives que c'était un peu compliqué quand même de se reconstituer, de se reconstruire une histoire. Et comme vous l'avez très bien noté en ouverture, c'est parti de la société civile. Alors, il y a eu encore, c'était encore un camp militaire. Il faut savoir qu'entre 1986 et 2007, ça a été un centre de rétention administrative. Parce qu'on garde quand même les compétences. Bon, ce qui fait qu'en 2007, ça a été quand même... J'ai dû taper un peu du poing sur la table avec quelques amis, dont Serge Grasfeld, pour dire, bon, vous êtes bien gentils, mais enfin, si on ouvre un mémorial sur le camp de Rivesaltes, si vous pouvez nous éviter de mettre un centre de rétention administrative sur place, ça nous arrangerait. Donc, il a disparu en 2007, il est ailleurs, bon, c'est quand même une très bonne chose. Bon, voilà. Donc, enfin, en dehors de cette, sur raccro de dernier moment, ça reste d'ailleurs encore maintenant pour partie un camp militaire, de l'ex-DGSE.
Ah bon, il y a une...
Oui, c'est d'ailleurs, c'est l'ex-DGSE, donc c'est très, très, très surveillé. C'est un lieu d'entraînement, donc c'est, voilà. Bon. Donc, c'est ça, c'est histoire. Mais le projet de mémorial est né de la société civile, et d'abord localement, avec en relais national Serge Klarsfeld, mais localement, Claude Vaucher, Claude Delmas, Joël Mettet, qui est un journaliste qui a fait scandale, parce qu'il a découvert un fichier de Rivesaltes, des internés de Rivesaltes, dans une décharge publique. Bon, évidemment, c'est pas le lieu habituel des archives, donc ça a créé quelques remous, c'est le moins qu'on puisse dire, avec une pétition nationale, alors là, relayée par Simone Veil, par Edgar Morin, par Claude Simon, enfin, donc c'était quelque chose de très important. Et ça, ça se concentre là dans les années 90, deuxième moitié des années 90 en particulier, avec en relais, enfin un relais politique en la personne de Christian Bourquin, qui est un responsable socialiste et qui va considérer que ce combat est son combat. Et en 98, à la surprise de tout le monde, il prend la présidence du Conseil général des Pyrénées-Orientales et là, il va en faire un de ses objectifs depuis 1998. Enfin, il a fallu du temps.
Est-ce que vous pourriez, Denis Péchanski, juste en quelques mots, nous décrire... Donc, il y a une exposition permanente qui est consacrée donc, à ces différentes mémoires qu'on a évoquées, mais il y a aussi une programmation avec des expositions temporaires, une programmation culturelle, artistique.
Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se limiter dans un programme de ce type à avoir uniquement une démarche historienne et une démarche mémorielle. Il est important d'en faire un lieu de vie. Ce n'est pas par hasard si Agnès Sajaloli, qui est une femme qui vient du monde de la culture, est directrice de ce mémorial du camp de Rivesaltes et qu'elle a construit tout un programme culturel qui va accompagner ce dispositif, et j'ajouterai un programme pédagogique, parce que nous avons, en amont même du concours d'architecte, on a mis en place une commission pédagogique qui a imposé ses propres exigences pour que l'accueil des enfants se fasse au mieux. Et Ricciotti, s'il a gagné, bon, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'il a pris en compte tous ces paramètres, et ensuite qu'il a dit, moi, j'ai compris que mon bâtiment ne doit pas s'imposer au lieu. On a les traces encore de ce qu'a été ce camp. Eh bien, ce sont ces traces-là, ce sont ces baraques-là, c'est ce camp-là qui s'impose à moi. Et il a fait un bâtiment extraordinaire. J'ai un fan absolu de Ricciotti, qui est un fou génial, et qui a fait cette espèce de rampe qui part au ras du sol, en béton... il appelle ça un béton viril, ça c'est de Ricciotti, et qui part au ras du sol et 200 mètres plus loin, qui monte au niveau du faîte des baraques. Ce qui fait que c'est un bâtiment unique, exceptionnel, et une prouesse technologique par ailleurs, et en même temps, quelque chose qui ne s'impose pas au lieu, qui respecte le lieu. Parce que c'est le seul lieu en France, non pas où il y ait des traces de ce qui a été l'internement, Drancy, il y a encore le quadrilatère, sauf que c'est un HLM. Donc l'émotion, elle ne vient pas de, de la vue de ces HLM. Elle vient de l'histoire qu'on connaît, bien sûr. Quand on va au MI, là où il y a un remarquable musée mémorial, bon, quand on va au MI, on a une tuilerie. C'est une tuilerie qu'on voit. Donc l'émotion, elle ne vient pas de voir une tuilerie, c'est de savoir qu'il y avait des internés qui étaient dedans. Là, quand on est au milieu des baraques, on a le sentiment de ce qu'a pu être l'internement. Ce qui fait que l'émotion, elle vient du lieu et permet d'entrer dans ce parcours qui est un parcours d'analyse.
Je vous remercie beaucoup, Denis Péchanski. Je rappelle bien sûr l'inauguration du mémorial de Rivesaltes le 16 octobre prochain, en présence du Premier ministre Manuel Valls. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoire-vive au pluriel.net.